Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les criminels les plus cons de l'histoire » est un ouvrage d'Alain Bauer qui s'inscrit à la frontière du recueil de faits divers, du livre d'anecdotes et de l'essai de vulgarisation sur la criminalité. L'auteur y rassemble plus de 300 histoires courtes inspirées de cas réels, en privilégiant des criminels malchanceux, maladroits, désorganisés, émotifs ou simplement stupides. Le livre ne cherche pas à glorifier le crime ni à construire une enquête continue. Il propose plutôt une succession de situations cocasses, vérifiées pour l'essentiel, qui montrent à quel point l'échec peut faire partie intégrante du passage à l'acte. Le ton est volontairement décalé et humoristique, ce qui rend la lecture accessible et rapide. L'ouvrage intéressera surtout les lecteurs de faits divers, de true crime et de récits courts, ainsi que ceux qui souhaitent aborder la criminalité sous un angle moins solennel, plus ironique et plus fragmenté. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une collection de faits divers réels, présentés comme un inventaire de l'échec criminel. Le cœur du livre repose sur une logique de collecte et de classement plutôt que sur une narration suivie. Alain Bauer rassemble des cas authentiques qui mettent en scène des voleurs, escrocs, dealers, assassins ou faussaires, incapables de mener leur projet à bien. Cette approche donne au livre une structure proche du répertoire ou de l'encyclopédie courte, où chaque entrée isole un raté significatif. L'intérêt n'est pas de raconter une intrigue, mais de faire apparaître un motif récurrent. Le crime est souvent moins spectaculaire dans la réalité que dans l'imaginaire collectif. En montrant des individus qui se trahissent eux-mêmes, oublient un détail évident ou s'exposent par leur propre incompétence, l'ouvrage transforme le fait divers en matériau d'observation sur la stupidité ordinaire. Cette logique d'inventaire permet aussi de varier les profils et les situations, tout en gardant une cohérence de fond autour de la maladresse criminelle. Deuxièmement, un traitement humoristique qui remplace l'analyse criminologique classique. Le livre se distingue par son ton. Plutôt que de proposer une étude sévère, méthodique ou psychologique de la délinquance, il adopte une ironie assumée qui cherche avant tout à faire sourire. Les anecdotes sont généralement courtes, souvent réduites à l'essentiel, puis accompagnées d'un commentaire qui accentue l'absurde ou le ridicule de la situation. Ce choix de style change radicalement la perception du sujet. Le criminel n'y apparaît pas comme une figure fascinante ou menaçante, mais comme un individu dont les erreurs provoquent une forme de satire. Ce décalage est central, car il permet de détourner le true crime vers un registre plus léger, sans effacer le caractère réel des faits. L'humour ne sert donc pas seulement à divertir, il structure la lecture et impose une distance critique face aux clichés sur le génie du crime. En ce sens, l'ouvrage fonctionne moins comme un essai criminologique que comme une galerie d'exemples où le rire naît du décalage entre intention criminelle et résultat dérisoire. Troisièmement, la mise en avant de la banalité des erreurs qui font échouer les délits. L'une des idées les plus fortes du livre est que l'échec criminel ne tient pas toujours à une grande affaire de hasard ou à une intervention héroïque des forces de l'ordre. Très souvent, il provient de défauts très simples, absence de préparation, panique, confusion, vanité, impulsivité ou incapacité à anticiper les conséquences immédiates. Le livre insiste sur ses faiblesses en accumulant des cas où le criminel se discrédite par lui-même, parfois dès les premières minutes de son action. Cela donne une vision très concrète du crime comme activité fragile où un détail insignifiant peut suffire à faire tout basculer. Cette perspective est intéressante parce qu'elle démystifie la figure du malfaiteur habile et souligne la place de l'improvisation ratée. Elle fait aussi ressortir une forme de vérité sociale. Beaucoup de délits ne sont pas le fruit d'une intelligence supérieure, mais d'un enchaînement de décisions médiocres. Le livre montre ainsi que la stupidité, plus que la ruse, peut devenir un moteur narratif du fait divers. Quatrièmement, un format très bref qui privilégie la lecture fragmentée au développement approfondi. Le format du livre est un élément essentiel de son identité. Les histoires sont très courtes, parfois réduites à quelques lignes ou à un très bref paragraphe, ce qui crée une lecture rapide, discontinue et facilement interrompue. Cette brièveté a un avantage évident, elle rend le livre accessible, léger et compatible avec une consultation par morceaux. Mais elle a aussi une conséquence importante sur le contenu, car chaque cas est traité sans véritable approfondissement. Le lecteur obtient l'essentiel des faits, mais rarement une contextualisation complète, une analyse des causes ou un développement psychologique. Ce choix éditorial explique à la fois le succès divertissant du livre et les réserves qu'il peut susciter chez ceux qui attendent davantage de profondeur. L'ouvrage s'adresse donc à un public qui cherche un flux d'anecdotes plutôt qu'une démonstration longue. Sa force réside dans la vitesse de lecture et l'accumulation, pas dans l'examen détaillé d'un dossier. Cela le rapproche d'une forme de cabinet de curiosité criminelle, où la brièveté devient le principe d'organisation. En dernier lieu, une porte d'entrée ludique vers le true crime et la culture du fait divers. Même s'il ne cherche pas à être un ouvrage académique, le livre occupe une place reconnaissable dans l'univers du true crime et des récits de faits divers. Il propose une porte d'entrée moins anxiogène que les enquêtes sur les crimes graves, car il met l'accent sur le ridicule, l'échec et la bêtise plutôt que sur l'horreur ou la sophistication du crime. Cette orientation le rend accessible à un large lectorat, y compris à des lecteurs qui ne souhaitent pas nécessairement s'engager dans une lecture sombre ou techniquement complexe. En même temps, le livre conserve un lien avec une démarche de documentation, puisque les anecdotes sont présentées comme collectées et vérifiées pour l'essentiel. Cette tension entre rigueur de la source et légèreté du ton fait son originalité. Il peut ainsi intéresser ceux qui aiment les histoires vraies, les compilations insolites et les approches décalées du réel. Son apport principal est de montrer qu'un livre sur la criminalité peut être à la fois informatif, bref et volontairement amusé, sans se confondre avec un traité ou avec un polar. En conclusion, Les criminels les plus cons de l'histoire conviendra surtout aux lecteurs qui apprécient les faits divers réels, les formats courts et les livres qui abordent la criminalité avec distance et ironie. Il peut aussi séduire ceux qui cherchent une lecture fragmentée, facile à reprendre à tout moment, sans l'engagement demandé par un essai criminologique classique ou par une narration longue. Sur le plan intellectuel, l'ouvrage a l'intérêt de désacraliser la figure du criminel en montrant combien l'échec, l'improvisation et la maladresse comptent dans de nombreux passages à l'acte. Sur le plan pratique, il offre une lecture rapide, souvent divertissante, qui fonctionne bien comme ouvrage de consultation ponctuelle plutôt que comme livre à lire d'une traite. Ce qui le distingue d'autres titres du même genre, c'est précisément son refus du sensationnalisme sombre et du récit d'enquête. Alain Bauer mise ici sur l'accumulation de cas réels, le format bref et un humour volontairement décalé. Le résultat est un livre de true crime atypique, plus ludique que dramatique, qui privilégie l'absurde du réel à la tension du suspense. Si vous souhaitez soutenir Alain Bauer, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt